Bonsoir à toutes et tous, et oui, j'ai pas l'habitude de dire bonsoir, puisque la revue de presse JV, c'est le matin, hein, normalement. Là, ce soir, c'est le nouveau partage de la revue de presse inédite du samedi, la revue de presse rétro que peuvent écouter chaque semaine, chaque samedi matin, les tipeurs, directement hein, sur le Tipeee, le lien est dans la description de l'émission, si vous voulez m'aider à porter l'émission toujours plus haut, toujours plus fort, donc vous le savez, vous pouvez m'aider sur le Tipeee, et donc l'une des récompenses, hein, c'est d'avoir une édition spéciale chaque samedi, une édition inédite, une revue de presse rétro qui revient donc sur un vieil article de préférence hyper intéressant et pertinent, sinon quel est l'intérêt, voilà. Et donc afin de faire découvrir cette revue de presse rétro depuis quelques temps, et ben je avec les tipeurs on offre une édition qui date d'il y a un mois, hein, pour pas que les tipeurs se sentent lésés, donc c'est le petit cadeau, je vous laisse profiter de cette édition et puis ben, je vous dis à très bientôt pour votre revue de presse JV matinale. Allez, bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre épisode du samedi, bienvenue chers tipeurs, cet épisode qui vous est totalement exclusif, rien que pour vous, bien sûr. Alors vous le savez, pour ceux hein, qui sont tipeurs depuis un petit bout de temps, le samedi c'est la rubrique revue de presse rétro et ce matin j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Alors on est toujours dans la revue de presse rétro, hein, ça y a pas de souci, mais au lieu de vous lire un vieil article, j'ai eu envie de tenter ce matin de vous diffuser des extraits de vieille interview de créateurs japonais, et plus particulièrement pour quand même avoir une sorte de thématique, hein, qu'il y ait une certaine cohérence, de développeurs japonais. Alors c'est assez étrange puisque bien évidemment quand les développeurs japonais sont interviewés, soit ils sont sous-titrés, soit ils sont doublés, donc j'ai pris des extraits qui étaient doublés car dans les vieilles émissions de jeux vidéo en général, on n'était pas trop pour le sous-titre, hein. Maintenant ça s'est bien démocratisé, mais c'est vrai qu'à l'époque si t'avais pas un doublage par-dessus, c'était même pas la peine. Donc voilà, ce sont des créateurs japonais donc interviewés lors d'époques complètement reculées. Alors c'est un exercice de style un petit peu particulier. J'espère que cela va vous plaire. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Vous me direz ça dans les commentaires, bien sûr. N'oubliez pas, ça j'aime à le répéter à chaque fois malgré tout, si vous êtes tout récent tipeur, déjà bienvenue et merci hein, pour votre soutien. Vous avez accès bien sûr à l'intégralité des épisodes précédents depuis qu'il y a des épisodes inédits hein, sur le Tipeee. Alors récemment, j'ai pas tout regroupé dans le même, je dirais dans le même endroit, hein, dans le même cloud. Mais si vous déroulez l'historique hein, des news Tipeee avec les épisodes du samedi qui y sont postés à chaque fois, vous retrouverez tous les épisodes très facilement. Mais bon, je vais refaire une sorte de point là-dessus très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bref, ce que je vous propose pour commencer, hein, c'est d'attaquer avec le plus célèbre d'entre tous, c'est-à-dire Shigeru Miyamoto, hein, que je ne présente plus quand même, le papa de Mario, de Zelda, de Pikmin, et de tant d'autres jeux fabuleux, l'architecte hein, de l'esprit Nintendo, en tout cas l'un de ses architectes, l'un de ses piliers, qui avait été interrogé par le magazine Envoyé Spécial hein, de France 2, dans les années 90, en pleine période Super Famicom. Donc je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Je suis Miyamoto. J'ai 40 ans.
Vous êtes connu comme étant le concepteur de Super Mario. Comment est-il né ?
Je voulais concevoir un personnage bien particulier. Et je lui ai donné la forme d'un Italien moustachu. À cause de la taille réduite des personnages dans les jeux vidéo, il était important que le personnage ait des traits bien identifiables. Comme sur l'écran de la télé, le personnage est tout petit, il fallait exagérer les proportions du nez, de la bouche et des yeux. Il fallait donc tricher afin d'en faire un personnage facilement identifiable graphiquement, d'où la casquette, le gros nez et la moustache.
Aujourd'hui, Super Mario est connu dans le monde entier. On en a tiré un film. Est-ce que vous pensez que Super Mario pourrait devenir un autre Mickey Mouse ?
On fait souvent ce rapprochement, mais c'est plutôt une idée des médias. Nous essayons de ne pas perdre notre sang-froid. Mickey Mouse a vécu pendant 50 ans, donc pour pouvoir parler sur un pied d'égalité, il faudrait que Super Mario vive encore 50 ans.
Oui, mais la compétition est énorme sur le marché, alors qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais fondamentalement, il s'agit d'une compétition entre les producteurs et les consommateurs. Donc on essaye de ne pas considérer les autres firmes comme des rivales. On ne s'intéresse qu'à la supériorité du nouveau jeu par rapport au précédent. Les enfants d'aujourd'hui sont en effet inscrits dans des boîtes à bachots et des clubs de sport. Leurs parents leur disent sans arrêt de travailler et leurs emplois du temps sont très chargés. Ils pensent aux jeux vidéo même lorsqu'ils sont à l'école. Le fait de songer au jeu, de faire travailler son imagination en pensant à une chose que l'on n'a pas réellement devant soi, sans aller jusqu'à dire que c'est une forme d'éducation, peut être considéré comme une forme d'apprentissage dans la croissance de l'homme. Et je crois que c'est positif. On a vendu environ 12 millions d'exemplaires de Super Mario 3 aux États-Unis et au Canada, et 3 millions au Japon. Environ une famille sur trois possède un jeu vidéo. La question qui se pose est de savoir qui sont nos acheteurs et quels sont leurs besoins.
Est-ce que vous êtes aussi créatif qu'avant ?
C'est une chose qui m'inquiète. Les budgets sont grands et les sommes d'argent qu'on peut dépenser pour le développement d'un soft ne sont pas limitées chez Nintendo. Si j'étais indépendant, je m'exposerais à de grands risques et les décisions que je prendrais pourraient entraîner de sérieuses conséquences. Cela me ferait un peu peur. On finit par se demander si on est manager ou créateur.
J'espère que vous avez apprécié en fond sonore hein, les remixes qui, moi, me font toujours autant tourner la tête hein, que l'on peut entendre dans Super Mario All-Star. Entendre Miyamoto vers la fin dire que voilà, sa peur, c'est d'être plus un manager finalement qu'un créateur, c'est assez intéressant quand on sait que la suite de sa carrière, quelques années plus tard, bien sûr, sera plus de la supervision que de la création pure et dure. Pour le deuxième extrait, j'aimerais vous ramener il y a bien longtemps sur Game One, avant No Life, où Alex pilote via sa boîte de prod Pocket Chami réaliser des docs absolument exceptionnels, dont un sur la game music, et j'aimerais vous diffuser un passage d'interview sur l'énorme Yuzo Koshiro, le compositeur entre autres hein, de Street of Rage, Act Treasure, et d'ailleurs qui avait composé pas mal de musique pour No Life également. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Vous avez vu, ça fait très professionnel hein. Trop peut-être, il faut que je... Ça faisait peut-être un peu trop radiophonique ou télévisuel là, ma façon de lancer le truc, mais enfin bon, allez, on l'écoute tout de suite.
S'il y a nostalgie, c'est parce que la game music a toujours été une expérience à part. C'est aussi grâce au travail acharné de certains compositeurs pour explorer les limites des capacités sonores des machines 8 et 16 bits. Parmi eux, un certain Yuzo Koshiro.
Quand j'étais au lycée, il y a trois jeux qui ont changé ma vie. C'est vraiment le destin qui les a mis sur ma route. C'était Druaga, Space Harrier et Gradius. Ce sont ces trois jeux qui m'ont décidé à faire ce métier. Les musiques étaient si belles.
Il se lance donc dans le métier à 19 ans et grâce à son succès, fonde très vite sa société Ancient. Parmi ses travaux les plus connus, Streets of Rage et Act Treasure. Après avoir travaillé sur de nombreux jeux pour Super Nintendo et Mega Drive, il deviendra producteur sur le jeu The Story of Thor, dont il composera également les musiques. Il en réalisera aussi une suite pour la Sega Saturn.
À cette époque, pour faire de la musique, il fallait avoir un certain niveau en informatique. Sans ces compétences, il était impossible de sortir un son correct, surtout en ce qui concerne la Mega Drive.
Et c'est justement sur Mega Drive qu'est sorti son chef-d'œuvre, la série des Streets of Rage. Les sons utilisés sont révolutionnaires. C'est à la fois une réussite artistique et un exploit technique.
Pour moi, Streets of Rage est un tournant dans ma carrière. Auparavant, je n'avais jamais fait que des musiques très stylées jeux vidéo. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Streets of Rage, c'était les débuts de la house music. À cette époque, j'adorais sortir en club et j'allais danser au moins une fois par semaine. C'est là que j'ai eu envie d'utiliser un peu ce genre de musique dans un jeu. Je reçois encore aujourd'hui des réactions de fans de Streets of Rage, surtout de l'étranger. Et au contraire, j'ai eu de très mauvais retours des joueurs japonais. Ça n'a pas plu du tout ici.
Plus récemment, Yuzo Koshiro fut également chargé d'une partie des musiques de Shenmue.
Sur Shenmue, le producteur Yu Suzuki était incroyablement précis dans ses demandes. Il expliquait ce qu'il voulait dans les moindres détails. Ensuite, je revenais la semaine suivante avec mes morceaux. Je les lui faisais écouter et là, il disait « Bon, ça va, je garde ». Ou alors « Ça, c'est nul, à dégager ». Ça se passait comme ça. Quand on fait ce métier, on a peu de temps pour se faire des amis. Mais malgré tout, je sors souvent avec M. Osoe et M. Sakimoto. Je m'entends bien avec eux car ce sont de vrais gamers. Et surtout Sakimoto, on est vraiment fans de jeux tous les deux.
Quel bonheur de se réécouter du Street of Rage, du Egg Treasure et compagnie. Bref, je sais pas vous, mais moi Yuzo Koshiro, c'est vraiment l'un de mes compositeurs préférés. Bref, ça fout toujours les poils, ça c'est clair. Pour continuer, un petit passage avec Yuji Naka, le papa, enfin le co-créateur en tout cas de Sonic, qui lors d'un document, d'une sorte de making-of promotionnel hein, pour les 20 ans de Sonic, était revenu sur la création, et même si le doc était un petit peu promo, voilà, pour promouvoir, il me semble, Sonic Génération à l'époque, ses propos sont quand même super intéressants, puis ça reste Yuji Naka quand même, hein. Zut, hein, au bout d'un moment, ça reste quand même un des tauliers des années 90. Et donc, on se l'écoute tout de suite.
J'aime quand ça va vite. Et j'aimais assez l'idée de créer un jeu où plus on s'améliorait, plus on pouvait terminer un niveau rapidement. À l'époque, les jeux n'avaient pas de système de sauvegarde. Il fallait donc rejouer depuis le début, à chaque fois. Aujourd'hui, c'est différent. On peut reprendre là où on s'est arrêté, mais à l'époque, il fallait tout recommencer depuis le début. Le joueur devait donc reprendre plusieurs fois les niveaux et il devenait ainsi de plus en plus performant. Ça nous semblait bien de pouvoir permettre aux joueurs d'aller de plus en plus vite. C'est l'une des principales raisons de la rapidité de Sonic. Cette caractéristique devait aussi aider à différencier Sonic de Mario. Au final, cette contrainte m'a beaucoup inspiré.
Comme les essais sur le jeu se déroulaient bien, Sega était de plus en plus persuadé que Sonic the Hedgehog serait le jeu vidéo qui donnerait à la Mega Drive l'élan dont elle avait besoin, en mettant en valeur les performances techniques vraiment révolutionnaires de la console pour l'époque.
Même si la Mega Drive était une console haut de gamme, elle n'était toujours pas adaptée à l'époque à la programmation de jeux très rapides, comme je voulais le faire avec Sonic. On a donc vraiment dû travailler très très dur pour y arriver. Le jeu était vraiment très rapide et ça nous rendait malades parfois. Je me souviens avoir fait des mises au point au début et par la suite dans la conception du niveau. Mais je crois qu'on a fini par atteindre la vitesse maximale qu'on pouvait obtenir pour Sonic 1. On commençait peut-être à s'y habituer et ça nous inquiétait un peu au début.
Bifurquons tout de suite, si vous voulez bien, sur l'une des grande, autre grande figure de Sega, à savoir Yu Suzuki, que je ne présente plus, Virtua Fighter, Virtua Racing, Shenmue, Outrun, Space Harrier, enfin bref, l'un des plus grands monsieur de l'arcade et du jeu vidéo tout court. Et ça, c'était dans un autre doc, Pocket Chami, qui était basé sur les jeux de baston. Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Génie était déjà reconnu pour ses nombreuses expériences de 3D simulées en zoom de sprite, comme Space Harrier et Outrun. Il est aussi célèbre pour Virtua Racing, Shenmue et bien évidemment la série des Virtua Fighter.
Le développement de Virtua Fighter a commencé en 1991. À cette époque, Street Fighter 2 rencontrait un succès sans précédent en arcade. C'était vraiment un jeu exceptionnel. C'est alors que le grand patron de Sega m'a dit « Il n'est pas question de se laisser faire par Capcom. Nous aussi, nous devons avoir un jeu de combat. » Je me suis dit que, tant qu'à faire, autant tenter un nouveau challenge. On a donc décidé de faire un jeu de combat qui serait réalisé entièrement en trois dimensions.
Virtua Fighter est une vraie révolution. Il a changé à jamais le monde des jeux de combat.
Street Fighter 2 se jouait avec 6 boutons. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de plus simple, quelque chose de plus facilement jouable.
Virtua Fighter se joue donc à 3 boutons, point, pied et garde. Suzuki est parvenu à créer un système de combat simple mais si profond et si parfait qu'il est encore en vigueur aujourd'hui.
Ce qui était révolutionnaire, c'est la manière dont s'enchaînaient les coups et dont on effectue les combos. En 2D, il y a un décor fixe, une ligne de déplacement et quelques coups définis à l'avance pour les personnages. Virtua Fighter a ajouté une dimension supplémentaire et ça change tout. Ça ouvre des perspectives infinies dans les combats.
Le processeur qu'on utilisait à l'époque était vraiment lent et nous n'avions pas beaucoup de mémoire disponible. Cette machine n'était pas vraiment faite pour la 3D. Mais si l'image n'était pas rafraîchie au moins 30 ou 40 fois par seconde, on aurait eu un rendu saccadé. Notre gros problème était de trouver le moyen de calculer suffisamment rapidement tous les paramètres. On a travaillé très dur pour mettre au point des algorithmes optimisés au maximum.
Yu Suzuki savait que l'animation était primordiale. Même avec une 3D rudimentaire non mappée, il fallait une animation parfaite pour que le jeu ait un bon impact visuel.
De nos jours, on peut se servir de la motion capture, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et de surcroît, personne dans le milieu du jeu vidéo au Japon n'avait encore jamais animé un personnage en 3D. Par la force des choses, tout le monde était donc débutant et on ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Si ce développement était si compliqué, c'est parce que c'était la première fois.
Et je vous propose de finir cette édition particulièrement spéciale, atypique, avec Suda51, Goichi Suda, qui, pour jeuxvideo.com, en 2008, nous parlait donc de No More Heroes, dont le spin-off ne va pas tarder à arriver sur Switch. Comme vous le savez, je suis un grand fan du bonhomme, je pense que je ne suis pas seul, et donc c'était l'occasion de ressortir quelques-unes de ses déclarations à l'époque, en pleine folie No More Heroes justement. Allez, on s'écoute ça.
Fuckhead.
Il y a actuellement un nombre croissant de casual gamers au Japon et nous vendons beaucoup de titres familiaux dans l'archipel. Le marché pour ce genre de titres est très florissant. En sortant du développement de No More Heroes, je pensais trouver sur le marché beaucoup de jeux semblables aux nôtres. Mais force est de constater qu'il n'y a pas d'autres jeux d'action comme celui-ci. Je pense en toute modestie que notre jeu est unique. A mon avis, ce type de jeu remportera un grand succès auprès des joueurs occasionnels et saura profiter de l'essor de ce marché. No More Heroes est vraiment à mon image. Un cocktail composé pour 51% de style et pour 49% d'humour. Le personnage de Travis a un sens de l'humour assez développé. Il est tantôt vulgaire, tantôt complètement idiot, et souvent complètement à côté de la plaque. Quant au côté stylé dont je vous parlais, il illustre le fait que je suis un gentleman qui aime être habillé avec classe, ainsi que les beaux objets. Je m'intéresse beaucoup aux objets qui ont un design original. J'aime les vêtements de marque française et les meubles italiens, par exemple. J'en ai d'ailleurs quelques-uns chez moi au Japon.
Design level. Ouais.
Le personnage féminin du jeu s'appelle Sylvia Kristel, mais ce n'était pas un clin d'œil volontaire au classique du cinéma érotique Emmanuel. Il s'agit d'une pure coïncidence, je m'en suis aperçu après coup en travaillant sur mon scénario. Pour No More Heroes, comme pour tous les jeux sur lesquels je travaille, j'utilise une méthode différente des autres développeurs. Dans notre studio de Grasshopper, nous avons plusieurs sections bien définies. Chaque session est ensuite divisée en départements. Dans la section jeu, il y a par exemple le département planning, celui de la programmation, du graphisme et enfin du son. À titre d'exemple, sachez que Tadaka-san est en charge du son. Je l'informe simplement, soit des mots-clés, soit du concept du jeu, et je réagis ensuite en tenant compte de ses idées, sa sensibilité, etc. Et il en va de même pour le graphisme. En revanche, pour la programmation, c'est une autre paire de manches, puisque dans ce domaine, nous partons souvent de zéro. Comme nous créons de nouveaux jeux et de nouveaux concepts de gameplay, il faut faire beaucoup d'essais avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'éléments dans No More Heroes qui s'inspirent directement de l'univers du rétro gaming. Lors de ma première rencontre avec le jeu vidéo, des titres comme Space Invaders, Pong et Breakout m'ont vraiment ému. C'était un véritable choc pour moi. Encore aujourd'hui, cette sensation est toujours intacte. C'est toujours l'image que j'ai du jeu vidéo. Je voulais arriver à provoquer le même genre de sentiment chez les joueurs d'aujourd'hui, avec mes productions. J'essaie de rassembler tous ces petits ingrédients qui donnent un goût unique au bon jeu vidéo. Le jeu vidéo qui m'a le plus marqué et influencé est Another World d'Eric Chahi. La découverte de ce jeu m'a fait un véritable électrochoc à l'époque. Tout dans ce jeu m'a fasciné. Le style graphique autant que le gameplay. Quant au game design, c'est à la fois simple et terriblement profond. Cerise sur le gâteau, le scénario est très intéressant et l'emploi de la technique du flashback permet d'éviter de longues phrases de dialogue fastidieuses. Pour moi, ce jeu s'inscrit à mi-chemin entre l'art et le cinéma. Je n'avais pas joué depuis quelques temps quand je suis tombé sur ce titre à l'époque, et ce fut une véritable révélation. Another World est ma Bible. J'ai beau ne pas connaître Eric Chahi, il est un vrai maître pour moi. Je suis honoré d'être à Paris pour découvrir le pays dont il vient.
Eric Chahi est probablement un Français, mais il a été très heureux d'avoir été en train de respirer l'air que nous avons respiré.
Je n'ai pas de planning défini pour le moment, mais je désire vraiment donner une suite à No More Heroes. Il se trouve que Wada-san, producteur du jeu, est du même avis que moi. Nous discutons actuellement de la faisabilité de ce projet qui me tient à cœur. Pour Killer 7, c'est différent. La franchise appartient à Capcom. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire si Capcom désire ou non exploiter cette licence.
J'adore quand Suda51 dit Another World est ma Bible. C'est vraiment un passage que j'aime toujours particulièrement. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'acheter le bouquin, j'en avais déjà parlé pas mal dans l'émission, de Florent Gorge, la biographie chez Omaki Books, consacrée à Goichi Suda, qui est passionnante d'un bout à l'autre, même si vous n'aimez pas spécialement ce que fait le personnage. Son parcours de créateur, son état d'esprit est vraiment passionnant à décrypter dans ce bouquin. Bah, j'espère que cette émission un petit peu spéciale vous a plu. La semaine prochaine, on reviendra sur une revue de presse rétro un peu plus classique, si tant est qu'on peut les trouver classiques, parce que j'essaie vraiment de varier les approches et les sujets. Donc si ça vous plaît, bah, peut-être dans quelques semaines, pourquoi pas refaire une petite compile de vieilles interviews télévisées, peut-être spécialisées dans les créateurs français ou autres, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre fidélité, je vous souhaite un excellent week-end, et puis on se retrouve de toute façon dès demain pour des replays, et puis lundi pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.